Bonsoir. Nous n'avons finalement que 10 minutes de retard, donc nous sommes meilleurs que le quart d'heure. Habillez-vous. Mais voilà, c'est parce qu'on dit bonjour aux copains que finalement on perd le temps. Alors ce soir, avec Camille et Blaye, nous allons rentrer dans un monde qui est à la fois merveilleux, magique et poétique. C'est du moins ce que moi j'ai pu voir, et certains d'entre eux de la salle ici aussi, le 25 septembre, si je ne me trompe pas, à l'Avelanet du Comminges, où ils ont ouvert les portes de l'endroit où ils travaillent pour la population qui était disponible. Alors, d'abord, quelques mots sur les deux personnes responsables artistiquement et en tant qu'acteurs du Barreau des Vers. Alors, le Barreau des Vers, j'ai posé une question, mais ils vous expliqueront ce que ça veut dire, parce que j'étais intrigué. Alors, Camille de Courty, elle, le cheval, ça a été son premier monde. Mais au-delà de ça, elle a fait de la musique à un haut niveau en conservatoire, elle a travaillé sur la voix, elle a un intérêt fort pour les musiques du monde, et notamment pour les musiques dites tziganes. Elle a fait une formation dans deux écoles en France, de cirque en France. Alors, je vais employer l'adjectif circassien. Moi, j'ai découvert cet adjectif circassien il n'y a pas si longtemps, et je trouve que quand on n'est pas au courant, on ne sait vraiment pas ce que c'est. Voilà. Donc, circassien, c'est donc l'adjectif dérivé de cirque. Alors, Camille a un intérêt pour la musique du monde, je l'ai dit, et depuis 2004, elle intègre dans les projets de spectacle le cheval qui est son premier intérêt de petite fille, je suppose. Blaye Matteo Trias, lui, est né de l'autre côté des Pyrénées, à Barcelone, je pense, donc dans une famille qui était intéressée par les arts en Catalogne, de l'époque donc post-Franco. Et j'ai découvert, en regardant ce qu'il avait fait partie d'un groupe de clowns sans frontières. Savez-vous que ça existait, les clowns sans frontières? On connaît les médecins sans frontières, mais les clowns sans frontières, ça a été une découverte, et je pense qu'il nous en dira un peu plus tout à l'heure. Il a fait une formation également en France, dans trois écoles, et dans l'une d'entre elles, il a rencontré Camille. Et donc, je disais co-directeur du Barreau des Vels depuis 2006. Le Barreau des Vels est né dans le Volvestre. Il y a des belles choses qui naissent dans le Volvestre. On a des cathédrales, on a des choses comme ça. Et puis, il y a donc le Barreau des Vels qui, en 2000, à Jansac, est issu d'un collectif de 6 artistes. Et en 2000, ils ont fait leur premier spectacle fondateur, Por qué no? Et les 8 spectacles qu'ils ont mis au point depuis le début sont aussi bien des spectacles, certains dans la rue, certains en salle et certains sous chapiteau. Et quand on passe à la Vallée de Comminges, nous on va faire de la gym là-bas, on voit de temps en temps des gros camions qui certainement referment vos chapiteaux. Donc ils ont fait 8 spectacles et donc depuis 2013, ils sont donc en résidence à la cave coopérative de la Vallée de qu'ils ont ouvert une seconde fois en septembre 2016 pour nous montrer des petits morceaux de leur composition. Et maintenant, c'est eux qui vont tout vous révéler sur la création, sur les processus de création d'un spectacle, oserais-je dire, circassien. Je vais le dire.
Bonsoir à tous. Merci pour l'introduction. Vous m'entendez bien? Je m'entends très bien, moi. Je suis très fort, je m'éloigne un peu. Là, vous m'entendez aussi? Très bien. Bon, je vais parler d'ici, alors. Bon, avant de commencer à parler de nous, parce que j'ai l'impression qu'on va beaucoup parler de nous ce soir, on voulait rendre un peu hommage à Jean et Michel qui sont ici, que vous connaissez peut-être.
Attends, c'est peut-être l'autre qui est allumé, non? C'est plus ça qui fait interférence, non?
C'est moi l'interférence.
Oui, absolument, oui, oui.
Oui, ça va. Ah, c'est mieux. Merci. J'ai rien changé, moi.
Non, mais c'est Camille qui a changé.
C'est ça.
Ah. D'accord. Bon, mais non, mais sinon, je peux...
Non.
Ah, non.
Bon.
Alors.
Bon, d'ici, tout le monde nous entend quand même.
Oui.
Donc, oui, avant de commencer, si on est là aujourd'hui, ici, c'est bien parce qu'on a démarré à la compagnie Agence Saxe-Sorgaronne. Et si on a... implanter la compagnie Agence Saxe-Sorgaronne, c'est parce que c'est finalement à cause de Jean et Michel un peu, parce qu'ils ont eu un enfant qui a fait l'école de cirque comme nous, qu'on a rencontré donc, au Centre National des Arts du Cirque, qui s'appelle Julien Cassier, avec lequel on a co-fondé la compagnie Barreau des Velles. Donc aujourd'hui, il ne travaille plus au sein de la compagnie, mais ça a quand même fait qu'on a atterri, nous, étant Camille originaire d'à côté d'Orléans, de Châteaudun, et puis moi de Barcelone, de l'autre côté des Pyrénées, donc, à être un point intermédiaire pour venir habiter et puis finalement travailler, mais aussi s'installer personnellement. Donc un petit merci pour tout ça. Jean est notre président d'honneur encore de l'association, donc il continue à nous supporter. Merci. Et sinon, donc pour faire une petite, avant d'entamer un peu ce qui nous intéresse, c'est-à-dire comment on fait pour créer nos spectacles, je pense que c'est quand même bien qu'on vous raconte un peu notre petite historique de la compagnie. Et du coup, comment on en est arrivé à là, sachant que, en gros, la singularité du travail de Barreau des Velles, je pense que, effectivement, c'est une compagnie, entre guillemets, circassienne, mais la singularité, c'est qu'on travaille avec beaucoup de langages du monde du spectacle vivant différents. C'est-à-dire, c'est le mélange du théâtre, de la danse, de l'acrobatie, du son, de la lumière, le mélange de beaucoup de disciplines qui font que nos spectacles sont singuliers. Tous les spectacles circassiens font ce mélange-là, mais nous, j'ai l'impression qu'on peut dire que le fait de leur donner une place équivalente, autant à l'acrobatie que la musique, que la dramaturgie, que la place d'acteur ou de l'émotion, de la scéno, de la lumière et du son, fait que nos spectacles ne ressemblent pas finalement à plein d'autres compagnies circassiennes ou de compagnies de théâtre, c'est-à-dire qu'on a forgé, entre guillemets, une patte qui est la nôtre et qui est celle de Barreau des Velles.
Qu'il y ait à notre histoire,
dit Camille... en soufflant sur mon oreille. Tu veux continuer?
Et donc, qui est lié à notre parcours. Donc, on s'est rencontrés à l'École nationale des arts du cirque. Les écoles nationales des arts du cirque ont permis à des gens qui ne venaient pas de familles de cirque traditionnelles d'avoir droit à une formation professionnels liés à la pratique des arts du cirque. Sauf que dans cette ouverture justement à d'autres personnes qui ne sont pas dans la transmission familiale, il y avait aussi donc l'ouverture à d'autres arts. Donc nous on s'est rencontrés dans une école qui nous a permis de découvrir, enfin pour ma part, qui moi venait d'un monde qui n'était pas dans le spectacle. voilà, de pratiquer la danse, l'acrobatie, la musique, et aussi toutes les spécialités circassiennes, c'est-à-dire voilà, découvrir plein de techniques dans le monde du cirque, donc l'aérien, le jonglage, l'acrobatie, les portées acrobatiques, enfin, beaucoup de choses qui sont liées à des agrès. Donc nous, on a découvert ça donc, dans ce centre national, où on s'est rencontrés quand on avait 17 ans. Après, la singularité de cette compagnie, elle vient aussi de notre histoire. Donc je pense que ça veut dire qu'on va être obligé de raconter un peu d'où on vient chacun, l'un et l'autre, pour expliquer comment on en a fait... c'est devenu un processus en fait de création et de rapport à la création. Moi, pour ma part, je viens donc d'un monde... Enfin, mes parents étaient dans les chevaux. Ils ont aussi été... voilà, 68, 70, Larzac, tout ça. Et aussi, moi je suis née après un voyage en roulotte, dont mes parents étaient partis pendant 2 ans, et donc on a gardé beaucoup d'amis manouches. Et donc moi je pense avoir toujours gardé une espèce de nostalgie de quelque chose que je n'avais pas connu, puisque je suis née après ces voyages. De cette espèce de fantasme de vie en roulotte et de vie en itinérance.
Est-ce que je pourrais te poser... Oui, pardon. Je pourrais te poser une question. Enfin, peut-être on va se relancer nous-mêmes par les questions, parce que si ça ne vous dérange pas. Parce que du coup, je trouve que ce serait pas mal que tu parles de Barreau d'Evel, le ouais. Nom.
Donc Barreau d'Evel... ça vient de cette genèse-là, c'est-à-dire que dans ma famille, en souvenir à cette époque, est restée l'expression Barreau d'Evel qui, pour moi, gamine, était celle que disaient toujours, dans tous les sens, les manouches qui venaient nous voir à la maison, dans le sens où c'est une espèce d'expression qu'ils disent pour prier, mais qu'ils disent aussi pour jurer. C'est-à-dire que c'est autant Barreau d'Evel mange tes morts que Barreau d'Evel grand Dieu. Et moi, ça m'a toujours fasciné ce qu'ils transportaient avec eux, mais dans quelque chose que je connaissais mal, mais qui est resté dans ma famille comme un clin d'œil à cette époque. Et après, quand il s'agissait de trouver un nom pour la compagnie, qu'on était jeunes étudiants aux arts du cirque, qu'on vivait dans des caravanes, et assez passionnés par ce monde de l'itinérance.
Et qu'on buvait du vin autour du feu jusqu'à pas d'heure, il faut le dire quand même.
Voilà.
Il faut le dire.
J'ai proposé ce nom en clin d'œil à cette histoire-là.
Et comme on était tous bourrés, on a dit oui.
Et maintenant, voilà, ça fait Barreau d'Evel. Bon, il s'avère quand même que dans le monde manouche, ils se sont beaucoup évangélisés, on va dire. Et donc finalement, Barreau d'Evel, ça devient beaucoup plus sérieux que ça ne l'était à l'époque. Donc, il m'est arrivé d'avoir quelques discussions avec des manouches un peu corsées. Après, Blay, lui, a aimé cette idée de Barreau d'Evel parce que, en catalan, le baron, ça veut dire le baron. Et donc, l'idée d'inventer comme ça un personnage fictif, le baron d'Evel, ça nous plaisait aussi. Et il s'avère que quand on est sorti de l'école aussi, c'était en 2000, cette époque, beaucoup de musique tigane, beaucoup de, voilà, les films de Kusturica, tout ça, on était assez, empreinte cette esthétique et cet univers-là. Voilà, ça c'est fait, Barreau d'Evel. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Moi j'étais sur mon histoire, mais peut-être tu peux repartir sur la tienne.
Très bien, je vais repartir sur la mienne. moi, je suis pas français. Je suis catalan, espagnol, bon c'est compliqué, mais ça serait un autre temps. De parler sur la politique de l'autre côté de la frontière. Mais en tout cas, effectivement, moi j'ai mon père qui est clown, ma mère qui est clown aussi maintenant. Quand j'étais petit, elle était plutôt chargée d'administration et de diffusion et de production des projets de mon père. Donc j'ai grandi, c'est pas de génération en génération, c'est-à-dire que mon grand-père était... agent de communication, bon, il a fait plein de boulot, c'est-à-dire que c'est pas une famille d'artistes complètement, c'est mon père et ma mère qui était dans des manifestations finalement à Barcelone, une fois qu'il y a eu un peu la libération, quand Franco est mort, en Catalogne il y a eu toute une espèce d'énergie en prenant la culture pour pouvoir la sortir dans la rue, reparler le catalan. Donc il y avait beaucoup de fêtes, de villages et tout ça. Il y a tout un courant de gens de cette époque-là qui sont mis du coup à faire des spectacles de rue, des spectacles, bon, il y a les comédiens, la foule dels bars, il y a toute une série de compagnies en Catalogne qui ont vraiment pris forme à ce moment-là. Et mon père, ma mère et quelques autres, ils sont un peu partis dans le cirque, mais dans le cirque, dans ce qu'ils avaient vu à la télévision ou de ce qu'ils imaginaient. Donc de façon complètement autodidacte, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à faire des spectacles dans la rue en faisant le clown, mais sans avoir aucune formation. Donc moi j'ai grandi là-dedans, mon père il a fait donc du spectacle de rue, il a fait un peu de la télé en Catalogne, il a fait après de la musique avec du clown, bon, c'est des projets très divers, mais en même temps il a été quand même une figure, et aujourd'hui une figure en Catalogne assez reconnue. Et c'est eux, quand j'ai dit que moi aussi je voulais faire un peu comme eux, enfin, c'est-à-dire que moi vers mes 14 ans j'ai décidé que l'école ça ne m'intéressait pas beaucoup et que finalement je voulais me dédier au cirque. J'ai décidé ça quand même, pas que parce que j'étais avec mes parents, sinon parce que j'avais réussi à voir des vidéos de cirque aux plumes, du cirque des soleils, des choses comme ça que je me disais mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire qu'en même temps La forme du cirque que mes parents faisaient à cette époque-là, elle était plus proche du traditionnel. Et quand même, en commençant à jongler et aller dans des endroits à Barcelone où il y avait des jongleurs et tout ça, j'ai réussi à voir et à voir qu'en France, on faisait... Il y avait quand même... cet art-là avait pris une autre tournure. C'est ça un peu qui m'a donné envie de me former plus loin. Et c'est mon père qui m'a dit, mais effectivement, si tu veux te former... Si tu veux faire du cirque, si tu veux arrêter l'école à 15 ans, c'est bien pour aller faire une école de cirque, c'est-à-dire continuer l'école, mais pour le coup, cibler sur ce que tu as envie de faire. Et de là, donc, à mes 16 ans, je suis parti à Châtellerault. En fait, j'ai postulé et parcouru au Centre National des Arts du Cirque à Châlons-en-Champagne, mais qui ne m'ont pas du tout pris, même sur dossier, parce que je n'avais pas aucun niveau. Mais par contre, à Châtellerault se créait ce qui est maintenant l'école supérieure, enfin l'école nationale aussi des arts de cirque à Châtellerault. Mais c'était leur première année, on était 5 élèves sous un chapiteau au parc du Verger à Châtellerault à cette époque-là. Donc on est parti, moi avec un copain de Catalogne, on est parti en France comme ça, assez jeune. Peut-être juste pour reparler vite fait, mon père, c'est du coup une figure du clown en Catalogne, mais aussi le fondateur du coup de Clowns sans frontières, organisation qui est née à Barcelone et qui après a grandi. Et du coup, il y a une association en France, mais il y en a aussi pas mal à travers le monde. C'est une association, enfin, ça s'est parti d'un voyage, d'une demande, d'une petite association de jeunes collaborateurs dans des camps de réfugiés en ex-Yougoslavie, c'était ça en 92. Donc il y a été une première fois, il y a eu une expérience, moi j'étais parce que j'ai été accompagnateur en tant que fils, il y a eu une expérience assez troublante sur le fait de faire un spectacle de clown dans un camp de réfugiés, ça a révélé quelque chose de très puissant, c'est-à-dire que le temps d'un instant, d'un spectacle, les enfants perdaient un peu la lourdeur de ce qu'ils étaient en train de vivre. Et du coup, mon père a commencé à embarquer d'autres copains qui avaient des compagnies. Et petit à petit, ça s'est organisé dans une association qui après a fait des ramifications en France, au Canada. Bon, ça s'est un peu grandi. Donc j'ai eu, moi, l'occasion de voyager... parallèlement à mon cursus de formation en France à l'école de cirque, quand j'avais des vacances, mon père continuait la formation en m'amenant dans des projets avec Clowns sans frontières. Du coup, j'ai été en Colombie, au Sahara, en ex-Yougoslavie plusieurs fois, Et du coup, c'était assez formateur. En tout cas, pour moi, j'ai bien senti que c'était une façon aussi de... C'était une formation parallèle à la formation que j'avais ici en France, au CNAC, pour dire que finalement, aujourd'hui, donc, Barodevel, on travaille avec des animaux, on travaille avec... avec...
Là, tu vas vite, là.
Je vais vite, je vais trop vite. Je te repasse la parole.
Non, mais grosso modo, l'idée de parler de nos parcours, c'est parce que il y a un gros moment de formation dans cette école nationale qui dure quand même 4 ans. Voilà, moi j'arrive des chevaux, j'arrive de la gymnastique, je comprends rien, je connais pas le cirque. Mais en même temps, je sais que je veux vivre l'itinérance, je veux avoir une vie dans le spectacle. Blaye arrive avec toute cette richesse d'un père clown. De parents qui sont dans le spectacle, mais qui y sont allés par conviction, par résistance aussi, après Franco. Et on pratique pendant 4 ans intensément le cirque, l'acrobatie, la danse, la musique. On rencontre beaucoup d'artistes, puisque c'était une époque quand même où il y avait des... c'était par principe de chorégraphe, de metteur en scène, qui intervenait sur 10 jours, 15 jours dans l'école, et toute l'année, comme ça, on rencontre des créateurs passionnant. Et en même temps, on est aussi dans une énergie de groupe avec un système de promotion. Et donc, de cette promotion de 16 personnes, on surfe en fait sur cette énergie de jeunes gens. On était plein de rêves, plein d'envies. Et de là, on est cette envie de compagnie. Donc, on est 6 de cette promotion à vouloir créer Barodevel. En se lançant sur un premier spectacle qui se crée pour la rue, dehors, en profitant des infrastructures du père de Blaye, un été, même avant la fin de l'école, pour créer ma premier spectacle, comme ça, qui jaillit un peu instinctivement. Donc, toute cette technique de cirque que l'on avait mis 4 ans à élaborer, à travailler pendant des heures et des heures, on l'emmène dans la rue. Et donc, autour de la bascule acrobatique, enfin, c'est-à-dire que là, dans des techniques de cirque très, au début très ciblées, on le met en scène avec un univers comme ça, on va chercher plein de soins en zinc, on coupe plein de tissus, on se fabrique notre décor, on met ça sur le camion de live, un transit, enfin, on bidouille notre histoire pour faire naître ce premier spectacle.
Qui s'appelle ?
Porcelain. Voilà. Et là, l'aventure commence, même avant d'avoir fini le cursus de l'école, en fait. Et en allant dans la rue, c'est-à-dire que c'était aussi par réaction, parce qu'on avait cette chose en commun dans cette équipe, c'est qu'on ne cessait de nous dire tous les jours dans le Centre National des Arts du Cirque que nous étions les créateurs de demain et nous étions la fine fleur de la création française. Et nous, on a dit qu'on va d'abord commencer par aller dans la rue. Et donc c'était un peu par besoin de se frotter à mais qu'est-ce que c'est que rencontrer le public. Et donc, de toute façon, ce qui nous rassemblait tous, ces jeunes-là, d'avoir fait le choix du cirque, c'était aussi ce choix d'être dans la création, mais aussi d'aller dans ce lien direct avec le spectateur. Donc, commencer dans la rue, ça semblait assez logique. Voilà. Ça, c'est le début de Barodevel. Tu veux continuer ou je continue ?
Non, ça me paraît important de pouvoir décrire un peu cette période-là. Comme hyper intense dans la puissance physique, c'est-à-dire qu'on avait passé 4 ans à faire de la muscu vraiment, à faire des sopères tous les jours, à travailler avec des danseurs, donc on est sorti de l'école, on était bien plus musclé que maintenant, et puis avec toute une série d'exercices qu'on avait mis 4 ans à faire, refaire, re-refaire, re-re-refaire, donc on n'avait qu'une envie, c'est de donner aux gens et de donner cette énergie aux gens sans se prendre le chou de savoir qu'est-ce qu'on était en train de raconter, de savoir est-ce que c'était le bon endroit, la bonne place. Enfin, ce qu'on avait envie, c'est de donner énergétiquement ça. Donc c'est vrai que le fait d'aller dans la rue, il n'y avait pas tout un côté de conceptualisation que l'école voulait un peu nous infliger, et du coup une espèce de liberté sur le fait de que voilà, on avait besoin de rien, on arrivait avec notre camion, on plantait le décor, puis on s'amusait, on faisait vraiment les cons, on rigolait, puis on a vraiment tripé à faire ce spectacle en 15 jours en Espagne, en mangeant des chips et des olives. Et puis, il y avait vraiment ce côté-là où c'était très jouissif. Il y avait aussi l'inconscience de ce qu'était encore le métier, et du coup, vraiment la jouissance de se mettre dans des endroits peut-être un peu de haut risque, chose qu'on ne ferait plus aujourd'hui. C'est-à-dire, on a sauté à la bascule à 40 degrés en Espagne, complètement déshydraté. On s'est mis à sauter à la bascule avec tant de pluie. Donc, c'est-à-dire, sauter à la bascule, c'est quand même une planche. Il y a deux messieurs qui te poussent d'un côté, et puis il y a celui-là qui va à 6 mètres de haut. Quand il pleuvait, c'est de la moquette, tu peux glisser. Enfin, moi, des fois, je fais la jonction. Tout le monde a pris un jour la voiture un peu bourrée, machin, et c'est passé comme ça. On a la chance de pouvoir le dire. On a aussi des copains.
Je sais pas si c'est très bien, ça.
C'est pas très bien.
Je suis pas sûr.
Non, bien. Non, mais pour dire qu'on a joué un peu avec le feu cette époque-là, et que ça s'est très bien marché parce que l'énergie était bonne, mais en même temps, on a aussi des copains qu'on aimait beaucoup et qui ne sont plus là aujourd'hui, et qu'en même temps on sent qu'on les porte en nous aussi avec un autre.
En tout cas, dans notre parcours, il y a quelque chose qui a réussi à ce début de compagnie avec énormément d'énergie, de jeunesse, avec une grande générosité technique dans la rue, ce que les gens avaient peu vu. On avait peu vu des jeunes gens maîtrisant énormément leurs agrès venir le donner en pleine rue. Et en même temps, il n'y avait pas que ça, il y avait déjà par instinct un univers assez clair et très brut, en fait, sur la manipulation d'objets, avec beaucoup de détournement d'objets en rapport au jonglage, en rapport avec de la musique en live. On était aussi très pratiquant la musique, donc on jouait aussi beaucoup de musique. Et en fait, ce premier spectacle aussi, on a demandé de l'aide, et la chance qu'on a eue, c'est que cette qualité de formation au CNAC, on a rencontré donc de bons metteurs en scène, de bons chorégraphes, et on a donc continué après l'école à inviter des gens de cet ordre-là à venir nous aider à fabriquer nos spectacles. Et donc cet état d'esprit de la collaboration et de la rencontre et de la rencontre entre les pratiques a toujours été une ligne de conduite au sein de la compagnie. C'est-à-dire que autant les premiers spectacles se sont créés par instinct, autant petit à petit on a toujours continué un laboratoire de recherche qui nous avait été transmis dans cette école, c'est-à-dire le spectacle se fait autour d'une pratique musicale, une notion de rythme, un travail sur la voix, un travail acrobatique, une notion dramaturgique, un travail sur l'espace, sur la scénographie, et c'est ça qui fait spectacle. Et ça, on l'a développé, donc on a eu cet instinct-là, on nous l'a aussi donné, je ne sais pas comment ça s'est fait, mais en tout cas on a tiré ce filon-là pendant des années. Et c'est aussi cette première expérience dans la rue qui nous a fait réaliser que la prochaine, on allait la faire en salle, puisqu'on avait vécu la rue, on avait vécu se faire envahir par un public qui arrive du mauvais côté, parce qu'on a mis notre décor dos au chemin alors qu'il fallait se mettre de l'autre côté, on a vécu les gosses qui rentrent dans notre camion alors qu'on est en train de jouer, on a vécu ces espèces de très empirique hein, comme rapport à la scène. Et en même temps, on a été repérés aussi comme des jeunes qui avaient un univers fort et qui n'avaient demandé rien à personne, puisqu'on n'avait pas, on n'était pas encore rentré dans le grand système culturel qui consiste à aller demander des subventions pour créer un spectacle. C'est-à-dire que ce premier spectacle, on l'avait créé tout seul dans notre coin, et puis on a remboursé notre matériel petit à petit avant de se payer. Et donc c'est ce début aussi qui s'est fait un peu tout seul qui a permis de lancer Barreau des Vels et de nous faire identifié, comme on dit, par la profession. Et suite à ce premier spectacle, est arrivé le deuxième. Donc, en réaction à cette première expérience, on s'est dit, peut-être qu'on va aller dans la salle et puis on va aller se faire plaisir, à rentrer dans un rapport plus intime au spectateur, avec aussi une création lumière, avec aussi une exigence dans le son qui va être différente de ce qu'on peut faire dans la rue. Et donc est arrivé ce deuxième projet qui s'est appelé Bechtout. Bechtout, c'était encore en clin d'œil à ce mot manouche. Bechtout, ça veut dire assieds-toi en manouche. Et là, une deuxième partie de l'aventure de Barreau des Vels est arrivée parce que ce spectacle, on a beaucoup travaillé sur le détournement d'objets encore. On avait énormément de casseroles qui sont devenues aussi des marionnettes. On s'est inspiré de travail de marionnettisme. On a continué à travailler sur le son, sur la musique, on a commencé à être un peu plus exigeant sur la sonorisation. On a continué notre travail acrobatique en faisant venir des intervenants acrobates.
On a fait une rencontre notamment avec André Maviel, je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui doivent connaître, qui a été pour nous marquante. Il est venu une semaine travailler avec nous, il nous a fait improviser sur ces histoires d'alphabet, il nous a montré cette machine qui est la loupe, c'est-à-dire des sons que quand il passe au micro, qui se répète comme ça. Et ça, nous, on l'a pris vraiment, et c'est à partir de là qu'on a... On ne l'a même pas quitté, c'est-à-dire ça a été un rapport au son qui a vraiment changé et que du coup, dans tous nos spectacles maintenant, le son, vraiment, on essaye que la musique du spectacle soit faite vraiment de ce qu'il y a sur le plateau, des sons qu'on peut créer nous et que du coup, en passant sur ces machines-là, vont créer des ambiances et de là, on va faire naître finalement l'accompagnement musical. Donc ça vraiment ce passage d'André Maviel qui continuait d'un côté un prolongement de l'école, c'est-à-dire à l'école on avait vu beaucoup passer des artistes et tout ça, sauf que là c'était encore mieux, c'est-à-dire c'était nous qu'on choisissait les gens qu'on aimait bien, on allait leur voir en disant on aime beaucoup ce que vous faites, est-ce que vous croyez que vous pouvez venir dans notre compagnie pour nous donner un stage pendant une semaine, et nous à partir de là on va continuer le travail et puis on va essayer de tenter des choses par rapport à notre savoir-faire à nous. Et bon, pour ça, il faut quand même des gens qui sont généreux, c'est-à-dire que ce n'est pas des gens qui sont arrivés à leur savoir, sinon c'est des gens qui sont dans la transmission. Donc c'est ce côté-là qu'on a gardé quand même, je pense, de la formation qu'on a eue, et qu'en même temps, on a traduit au sein de notre compagnie pour que chaque création, c'est une remise en jeu de ce qu'on sait, et de questionnement et essayer de continuer à apprendre et de se réquestionner et puis de donner le temps de repratiquer d'autres techniques ou d'autres langages pour continuer à rester toujours en mouvement. Et finalement, on a bien vu que comme l'acrobatie ou comme la danse, comme le théâtre, c'est des choses qui se pratiquent. La création est une masse, une matière qui, pour qu'elle soit souple, bah, il faut la côtoyer souvent. Porcheno, donc, était notre premier spectacle. C'était un spectacle qui a bien marché et qu'on aurait pu tourner pendant 5 ans. Mais le fait de vouloir être proche de la création et de vouloir créer des nouvelles choses a fait que du coup, on l'a tourné que 2 ans. Mais par contre, on a continué à garder un peu cette masse, cet exercice de créer des nouvelles choses fluides, quoi. Et ça, en fait, on l'a fait jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a on a jamais fait un spectacle et tourné au maximum de spectacles, sinon on a toujours été à l'écoute de là où nous on voulait être par rapport à ce qu'on crée. Donc c'est-à-dire qu'on se disait bon bah maintenant on a joué ce spectacle-là déjà 200 fois, on commence à sentir l'envie de faire autre chose. C'est pas parce qu'on a la possibilité de continuer à le faire encore qu'on va le faire. Donc ça va un peu, c'est pas très économiquement, c'est pas du tout des facilités, c'est-à-dire qu'on va dans des endroits, le plus facile c'est quand même de vendre, c'est ce qui rend de l'argent, c'est quand même de vendre les spectacles, de créer, ça coûte de l'argent mais ça ne rapporte pas du tout. Donc du coup à chaque fois on s'est remis dans ces endroits de quand même, même si on avait un spectacle qui pouvait se vendre bien, de prioriser. C'est comme des investissements de futur, de prioriser le fait d'apprendre, le fait de se mettre en recherche, le fait de tenter des nouvelles choses, le fait de se perdre, le fait de se mettre comme ça à chercher pour créer des nouvelles choses.
Ouais. Et bon, enfin, on n'a peut-être pas
réfléchi
au conducteur de cette
parole. Si c'est pour dire ça, je reprends la parole.
Mais en même temps, je voulais dire que.
Ah bah non, là, je pense que.
Que en fait, c'est une histoire de réaction.
Qu'est-ce que tu veux dire exactement?
Que tout est une histoire de réaction, de boule de neige. Donc on a grandi en rebondissant sur les spectacles qu'on fabriquait et les rencontres que provoquaient nos créations. Et en même temps, petit à petit, comment dire, non, mais c'est ça, je sais. C'est-à-dire que pendant longtemps, quand on arrivait pour proposer un projet, parce que voilà, quand on propose un, quand on a un projet, on va voir des professionnels qui ont des lieux, des théâtres, des festivals, et on doit les convaincre que ce qu'on veut faire est intéressant, pour qu'ils donnent de l'argent pour qu'on puisse le faire.
Et la réalité ?
Et la réalité, c'est que même nous, on ne sait pas du tout ce qu'on va faire. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut commencer à travailler à ce moment-là même l'improvisation. Ça vaut le coup d'arriver sur l'improvisation juste à ce moment.
Je te propose
de prendre toi aussi le micro et de prendre un peu l'espace debout parce que... Ah bah si, quand même. L'improvisation, c'est quelque chose pour nous de très important dans la création parce que c'est dans...
C'est pas moi.
C'est cet endroit où on va... Où, voilà, on va se laisser aller dans des endroits où on ne connaît pas, où on se met un peu en danger. Donc c'est vrai que ces exercices de présenter un projet pour convaincre des gens qui te donnent de l'argent pour faire quelque chose que normalement tu es censé savoir, sachant que nous on travaille à partir de l'improvisation, c'est-à-dire qu'on ne contrôle pas vraiment, des fois c'est compliqué. Enfin, c'est-à-dire qu'il faut s'habituer à parler devant des gens sans savoir vraiment ce qu'on veut dire. Vous voyez ce que je veux dire. Je sens que là, on arrive à créer une... On est tous d'accord là, sur ce point. Mais c'est quelque chose que même nous, quand même, dans notre travail, c'est-à-dire c'est au centre. C'est au centre aussi quand on se dit, tiens, on va faire un spectacle. On veut faire un spectacle à deux. La prochaine...
Il y a aussi une histoire, c'est que dans les improvisations, ce qui marche très bien aussi, c'est la question de contrainte. Par exemple, il va continuer de parler.
Moi, je vais continuer de parler. Donc elle me dit, toi tu vas continuer de parler. Puis par contre, moi, je veux pouvoir parler. Ça fait forcément quelque chose d'intéressant, non? Enfin, la question que se pose... Quand on ne parle pas.
Et dans le sens où là, normalement, il faudrait aller au bout. Alors là, je ne vais pas le faire, je suis fatiguée. Mais normalement, à partir du moment où je commence à faire ça, ben, je ne peux pas que je descende tant qu'il ne se passe pas quelque chose d'intéressant. Donc, normalement, il faudrait que j'aille jusqu'à la crampe, c'est pas grave, mais je reste. Quoi. Et oui, mais là, je ne vais pas aller jusqu'à la crampe, parce que c'est bon, je fais ma claque, parce que je suis très fatiguée et que je compte de tourner. Et donc, je vous l'explique juste. C'est-à-dire que normalement, l'improvisation réside dans le fait d'aller vers le vide et laisser son instinct le guider. Ce qui n'est pas la liberté, puisque la liberté, c'est savoir maîtriser ça. Dans le sens, être libre, penser je suis libre, donc je fais tout ce qui me passe par la tête, je fais des bruits, je vais dans l'hystérie et je lâche tout ce qui me sort, c'est pas être libre. Ça, c'est gérer le stress. Donc, pratiquer l'improvisation, c'est être capable de. Être dans une perception de l'instant et laisser son instinct nous guider, tout en n'étant pas juste à le subir. Donc avoir une notion du rythme, je sais très bien qu'il y a de l'autre côté, qui tend l'espace, comme si je devrais regarder par là, je devrais savoir qu'il est de l'autre côté. Donc en fait, on est quand même toujours dans un rapport à l'espace, à la conscience de ce qui se passe, et en même temps à ce qu'on est en train d'écrire. On doit écrire, improviser, c'est écrire dans l'instant. Donc ça, c'est une question de pratique. Et en même temps, on peut se dire que c'est... Parce qu'on vient de rencontrer une... Oh là, là, je commence à partir partout. Voilà. Mais c'est un grand truc. Ça, c'est un grand truc d'improvisation, c'est que jouer de l'espace. Ce qu'on ne voit pas, mais qu'on entend, ce qu'on entend, mais qu'on ne voit pas.
Tu peux me laisser parler deux secondes? C'est-à-dire que l'espace est vachement important dans cette question d'improvisation et de recherche. Quand on improvise pour chercher, nous, on se met toujours dans ça s'ouvre pas vous, ce truc. On se met toujours dans ce genre d'endroit. C'est-à-dire qu'on profite vraiment de l'harmonie, c'est-à-dire le cadre dans lequel on va se mettre. On sait qu'il va être propice du coup pour créer des choses et on aime bien se marrer quand même, c'est-à-dire que
peut-être pour revenir d'une façon plus consciente à ce qu'on était en train de dire tout à l'heure, on en était à Porcheno, qui était notre premier spectacle. On a fait donc à Prevestude, qui était un spectacle qui était plus
en salle.
Plus en salle, donc quand même avec un peu cette patte encore zigane ou manouche qui déteignait, mais dans quelque chose de beaucoup plus intime. Après, une fois que Bechtut a été un spectacle qu'on a tourné quand même pendant 3 ans.
Mais je crois que là, on a commencé à rentrer, parce que je pense que le temps passe, et je crois qu'on a commencé à rentrer dans quelque chose d'un peu plus intéressant, c'était qu'est-ce que c'est créer.
Qu'est-ce que c'est créer bon, d'accord, donc...
Tac là, hop, t'enchaînes. Tac,
bon, c'est bon, ouais, donc c'est tout ce qui est de qu'est-ce qu'on a fait, tout ça, c'est bon. Mais on en a fait quand même 8, c'est-à-dire qu'il y a eu une progression, c'est-à-dire qu'on est passé quand même de la rue à la salle, et puis nous, donc on avait 20 ans au début, aujourd'hui on en a 37, tout ça fait, à chaque fois, ça change la façon des intérêts. Au début on aimait la musique manouche, aujourd'hui on n'aime plus trop, enfin si, on aime quand même, mais non, mais c'est quelque chose qu'on ne met pas du tout de la même façon, et même le goût... On en a travaillé de la marinette, après on a travaillé... Aujourd'hui, là où on en est, on travaille beaucoup plus avec la danse contemporaine, on travaille beaucoup plus avec des univers plastiques qui se rapprochent de l'art contemporain, on travaille donc avec les animaux qui nous ont apporté toute une espèce de relation à l'ici et maintenant sur l'animal, sur les réactions... même du clown ou de comment être sur scène qui nous ont ouvert des pistes, c'est-à-dire que ça s'est quand même à niveau, ça s'est conceptualisé notre travail quand même, même si on a gardé, je crois, un esprit on a gardé notre esprit, c'est-à-dire des jeunesses d'enfance, non?
Ah bon?
Bah si, dans le jeu, c'est-à-dire l'acte de création.
Enfin, nous, voilà, on joue sur. Dans le côté plaisir, c'est-à-dire que le plaisir de découvrir, la plaisir. Bon, ça, c'est rapport au clown aussi, c'est-à-dire que le plaisir de la découverte, le plaisir de ne pas savoir. Donc, le plaisir de ne pas savoir, quand on est en. Le dernier spectacle qu'on a fait, il s'appelle Bestias, on est 8 sur scène, et donc on a passé. Là, on avait relevé le défi d'intégrer d'autres artistes dans l'histoire. Et finalement, il a été question toujours, dans le moment de la création, de faire qu'on se libère de toutes nos convictions, nos besoins de séduire, nos besoins d'être sûr de faire quelque chose d'efficace ou de séduisant ou qui va plaire, pour ne retourner qu'au jeu, et au jeu de la découverte, à découvrir ce qui sort de nous, malgré nous, ce qui nous échappe. Et ça, c'est très en lien avec l'enfance. Et donc, ben c'est vrai que c'est un métier très sérieux, celui d'artiste, à essayer de retrouver ce rapport à l'enfance dans la recherche. C'est une histoire de pratique, finalement, et aussi qui demande énormément de confiance. C'est-à-dire qu'on peut des fois avoir une perception extérieure par rapport à ça, d'artistes qui cherchent à se protéger, ou ça peut sembler très égocentrique. Certes, nous sommes des êtres très égocentriques, mais aussi, comme on se met dans des endroits de fragilité, où on essaie de laisser sortir des choses de nous en création, des choses qu'on n'avait pas prévues, des choses qui sont fragiles, qui sont dangereuses aussi, ça demande un certain cadre de confort. Et donc c'est pour ça qu'il existe des endroits pour les artistes, pour aller travailler, qui sont des lieux de résidence, où on va essayer de mettre les artistes en confort pour donner les moyens de travailler techniquement, certes, tous les besoins techniques, les besoins pour penser l'espace, une scénographie, des costumes, s'entraîner, mais aussi des endroits de confort pour pouvoir aller prendre le risque de découvrir d'autres choses de soi-même ou d'autres choses, de fabriquer quelque chose dont on ne connaît pas le résultat, qui sont des choses de plus en plus difficiles à faire dans cet état d'esprit-là, sachant que le monde de la culture, comme tous les autres mondes, sont compressés à l'idée de résultats et de comptes à rendre et de rapidité. Et donc finalement, nous sommes dans un monde où il faut continuer de résister sur le temps ne se perd pas, le temps se prend pour que des choses surgissent. Et les choses surviennent, arrivent dans un certain lâcher-prise. Alors là, on ne pourra pas faire carrément de la psychanalyse, mais mine de rien, notre pratique est faite de ça aussi. Là, je crois que je suis partie. Mais...
Non, c'est, enfin, moi je trouve ça intéressant. Je ne sais pas si je suis tout seul.
Merci. Non. C'est sympa.
Non, ça vaut le coup, je crois. En tout cas, pour nous, ils sont moins forts celui-là que celui-là. Celui-là, ils
sont moins forts. Vous êtes jamais plus près.
Moi, je le mets plus près. Oui, mais il y a un peu de réverb. Vous sentez la différence entre celui-là et celui-là? Oui, c'est pas la même. Hein. C'est pas la même. Pourtant, on pourrait croire que c'est le même. Tiens, je vais te donner celui-là. Parce que. Je crois que quelque chose que pour nous, et du coup il faut que je m'éloigne parce que c'est trop fort, ce qui est très important dans la création, c'est ces endroits où on se perd, c'est-à-dire quand on est en train d'improviser pour créer, quand on est en train, même comme maintenant, c'est-à-dire de chercher ce qu'on va dire, c'est quand même des endroits fondamentaux dans la création, c'est-à-dire pour faire quelque chose qu'on ne connaît pas, il faut bien se perdre. C'est-à-dire, pour essayer d'inventer quelque chose, il faut bien aller dans un endroit où on ne connaît pas. Si je maîtrise et que je fais les choses que je sais faire déjà, j'invente rien parce que je suis dans les chemins. C'est-à-dire, cette sensation de vide, de se jeter dans le vide que nous, on a eu beaucoup en tant qu'un corbat, c'est-à-dire pour faire un supérieur, soit tu le fais, soit tu ne le fais pas. Mais il n'y a pas entre deux, quoi. Entre deux, tu es sur la tête, quoi. Donc, tu le fais pas jusqu'au jour où, paf, tu le fais. Mais il n'y a pas de mesure. Donc, cet endroit-là de vide, cet endroit qui est comme une espèce de point de suspension, ou comme un moment, un temps précis, au début, il est très angoissant, parce qu'on ne connaît pas, c'est comme un temps de chute, tout le monde a chuté un moment. C'est un moment qui est très court et en même temps qu'on peut avoir des souvenirs très très longs de ce moment-là, qu'on a vu mais on n'a plus rien fait. Enfin, je suis tombé, j'ai bien vu que je me trouvais, mais je n'ai rien pu faire. Enfin, cette relation à ça, nous, on l'a quand même beaucoup sur ces espèces d'endroits que l'on se met pour improviser.
Il y a une chose par rapport au salto arrière qui est très facile aussi à expliquer dans des moments où ils nous sont assez importants, où on a réalisé que le cirque contemporain, on dit voilà, c'est des gens qui font du cirque, mais ils racontent des histoires. Bon. Mais le coup de je fais un salto arrière et je vais apprendre à raconter une histoire en faisant un salto arrière, ça ne marche pas.
On n'y croit pas.
C'est-à-dire que si on fait un salto arrière, on fait un salto arrière. On ne fait pas autre chose. Et c'est ce qui se passe à faire un salto arrière qui se raconte. C'est le corps qui fait le salto arrière qui se raconte. C'est la prise de risque, c'est la fatigue avant de le faire, c'est le faire plus ou moins bien, c'est le faire à tel moment du spectacle, c'est le faire parce que je le fais 40 fois, je me fatigue à le faire, du coup là on raconte autre chose, on part sur Sisyphe, on part sur machin. Ou c'est le faire parce que personne n'y attendait, on réveille tout le monde. Mais c'est pas... Je raconte l'histoire d'une vieille dame qui se réveille et qui mettrait son... Voilà, parce que ça, c'est habiller quelque chose qui n'a pas à être habillé. Il n'y a pas à habiller un salto arrière. Un salto arrière existe en tant que tel. C'est un acte physique concret. Et ça, le cirque contemporain a beaucoup gagné à réaliser ça aussi. C'est-à-dire qu'il y a eu la phase, nous, on ne fait pas que des numéros, on fait aussi des histoires. Sauf que l'histoire, la question de l'histoire, elle se raconte par plein de manières différentes. Et nous, par exemple, on crée des pièces où, pour nous, l'histoire n'est pas du tout un moteur. C'est même quelque chose qui nous enfermerait. Nous, on n'est pas des gens qui allons lire un texte et dire « Ah oui, on va mettre en scène ce texte-là. » Ça, c'est pas quelque chose qui est moteur pour nous. Du même ordre que j'ai des idées, avoir des idées, pour nous, n'est pas quelque chose que l'on revendique. On ne fait pas un spectacle avec des idées. C'est-à-dire qu'on a des sensations, on voit des espaces, on voit un rapport avec un spectateur, on sent une thématique, on sent un groupe, on sent une alchimie de différentes choses se mélangeant. Mais après, on pratique. Tu veux m'interrompre ?
Non, parce que oui, non, non.
Pourquoi tu mets deux micros ?
Parce qu'on entend moins bien avec celui-là.
Alors, là ? Donc, et donc, non, mais ça, c'est un moment, c'est important, ça.
Continue.
J'ai plus.
Moi, je pense que tu faisais allusion au fait...
Ah oui, les histoires.
L'histoire, pas l'histoire. Oui.
Voilà. Donc nous, on fait des spectacles qu'on pourrait appeler de l'ordre de l'abstrait. Sauf que ce ne sont pas des choses abstraites, c'est-à-dire que... on part souvent de tiroirs. Si on... Ah, on n'entend rien. Ah, d'accord. Là. On parle souvent, donc on ne fait pas des histoires, c'est-à-dire qu'on parle souvent du fait que la poésie visuelle, voilà, très clairement, c'est sans doute ce qu'elle définit le mieux, mais c'est aussi que chacun peut faire son histoire, certes, mais c'est aussi que ce sont comme des moments de vie, comme des instants, comme des tiroirs, et puis avec tous ces tiroirs qui commencent à se répondre, on fabrique des univers qui doivent avoir leur consistance. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus, ce n'est pas une histoire de gratuité, je mets des instants, vous faites votre tambouille. Il faut fabriquer quand même quelque chose qui se tient, il faut fabriquer un monde qui a sa logique. Après, sa logique, elle est faite de l'histoire de la création, elle est faite de nos histoires à nous, et au plus on va aller dans quelque chose de très singulier, très personnel, au plus elle va parler à chacun de nous, parce qu'on a tous des choses en commun. Là, je pars sur autre chose, mais l'histoire. Donc, nous ne sommes pas sur. On part sur un projet en disant on va raconter telle histoire, dans le sens où pour nous, qui ne sommes pas des gens de théâtre et qui n'avons pas une culture de l'histoire du théâtre, même si on commence à essayer d'y coller, parce qu'il faut apprendre de tout, c'est pas quelque chose qui est moteur. Par contre, on est dans une espèce d'instinct d'écriture, c'est-à-dire qu'on va conceptualiser un projet.
Je veux vraiment prendre la parole.
Non, parce que ça me paraît... Bon, vous voyez que c'est quand même... C'est complexe, là où on va se mettre pour créer des spectacles. Dans le sens où c'est pas d'histoire, mais il y a quand même une dramaturgie. C'est oui, mais c'est non. Enfin, c'est jamais... C'est compliqué à expliquer, finalement, comment on fait concrètement. En tout cas, là où on est arrivé, ou là où tu en es arrivé, c'est-à-dire l'intuition, c'est quelque chose que nous, plus ça va, plus on fait de confiance. Plus on fait de confiance.
De confiance à de la confiance.
De la confiance à l'intuition. C'est-à-dire qu'on on se base de plus en plus avec ce qu'on ressent. Parce qu'on donne la confiance à l'intuition qu'on a, donc qu'on a bâti à deux, mais qu'on a chacun. Parce qu'on sait que l'intuition, c'est quelque chose qui est pleine de nos parcours, de le parcours de la compagnie, de le moment présent, de tout le temps qu'il fait, de la journée qu'on a passée, de ce qu'on a vu, des influences, des choses qui nous ont plu et qui ne nous ont pas plu. C'est-à-dire, c'est finalement l'intuition, la chose à laquelle on peut reposer le plus en étant serein. C'est-à-dire qu'il y a des fois, on se dit, oui, mais alors, si tu rentres à droite et que j'ai rentré à gauche, c'est la troisième fois qu'on le fait, là, ça va être peut-être un peu répétitif. Enfin, le
fait... C'est pour parler des peintres, ta pièce.
Ta pièce, voilà. Le peintre, pour nous, on a lu... Enfin, on n'a pas des cultures non plus très, très larges, mais c'est vrai qu'en lisant ta pièce et en les peintres, ils ont souvent cette espèce de chose qui est assez normale chez eux, de qu'ils font les choses, ils ne savent pas vraiment pourquoi, et c'est le temps, c'est l'histoire qui petit à petit révèle ce qu'ils ont fait. Oui, mais bon.
Mais oui, ta pièce. Non, mais quand même, c'est pas que ça, parce que ta pièce, justement, il défend quelque chose comme un jaillissement de lui-même, un jaillissement d'un monde intérieur, mais qui s'inscrit dans un cosmos avec une grande conscience politique de dans quel endroit il fait ça. Dans le sens où c'est de l'instinct, certes, de l'air. C'est sûr, mais c'est pas que ça. Et donc, c'est une espèce d'endroit d'orchestration. Ouais, vas-y.
Non, mais là, c'est très concret. Donc là, on est vraiment au centre de comment on travaille, c'est-à-dire qu'on est deux.
Voilà.
Il y a Camille, que vous avez vu comme elle développe son sujet, et il y a moi, que vous avez vu aussi comme Jérôme le chantier. Donc, je pense que la création de Barreau des Velles se compose à partir de ça, à partir de ma façon plus instinctive de faire, d'aller, de foncer, de vouloir, de se laisser aller, et puis de Camille qui en conceptualise beaucoup plus, analyse beaucoup plus, conscientise beaucoup plus, et finalement est la sagesse et la conductrice finalement de tout ce qu'on fait. Là, je crois qu'on peut être...
Merci, c'est sympa ça. Ouais. Oh. Merci. Merde, du coup, ça m'a déstabilisé. Attends, j'avais un truc
bon,
là.
S'il y a quelques questions. Non.
Ouais, non, c'est. Tout à l'heure, j'étais partie sur.
T'es partie loin.
Sur convaincre. Non, tout à l'heure, j'étais partie un peu sur convaincre des gens de son projet, alors qu'on ne sait pas ce qu'on va faire. Hein, vous sonnez.
Oui.
Et quand on a 20 piges et qu'on arrive et qu'on voit des gens qui dirigent des théâtres qui nous disent mais alors, quelle est votre question? Quel est votre thème? Quel est votre projet? Quel est votre propos? On est très impressionnés, on se dit, ah oui, il faut être légitime, il faut avoir des idées, il faut avoir un discours. Et puis, au bout d'un moment, on a compris qu'en fait, ces gens-là n'avaient pas forcément idée de qu'est-ce que créer. Ce ne sont pas des gens qui créent, ce sont des gens qui ont besoin d'être rassurés sur quelque chose de très scolaire, sur ce que la création serait, avoir des idées, serait avoir un discours, serait avoir une histoire, serait avoir un propos. Mais ce n'est pas ça du tout. Enfin, j'en sais rien, je n'ai pas de réponse, je n'ai pas de vérité. Juste dire, ça c'est clair que nous on n'est pas dans la vérité, hein. On est dans la pratique, on se met dans des situations. Et au bout d'un moment, on a compris que finalement il n'était pas question de répondre à ça, et vouloir répondre coûte à ça, c'était forcément avoir des mauvaises réponses, mais plutôt se dédouaner de cette espèce de légitimité artistique que nous sommes censés expliquer à des gens pour les convaincre d'un propos. Mais par contre, témoigner d'une trajectoire, par exemple, nous, quand on va raconter ce qu'on veut faire, ce qu'on imagine faire, on arrive avec des iconographies, c'est-à-dire qu'on additionne des images, et on dit voilà, vous voyez, alors on donne des idées de thèmes, des idées d'espace, des idées d'équipe, des idées de pratique, des thématiques, des noms de films, des noms de musique, ce qui nous plaît dans ce film, ce qui nous plaît, et des iconographies, et les gens comprennent que c'est un labyrinthe, on va fabriquer un inconscient. On se fabrique un inconscient sur un projet par des iconographies, par des références, quelles qu'elles soient, philosophiques. Donc plus ça va, plus on... Moi, je m'aide beaucoup de philosophes. Être en chemin, être en questionnement, va énormément nourrir, par exemple, nos processus de création. Et donc, ce n'est certainement pas avoir des réponses. Par exemple... Ça m'est arrivé de faire un truc comme Mazout où on ne cesse d'être en transformation pour un spectacle. On dit ah oui, c'est bien la question, mais enfin, quelle est la réponse? Mais la réponse ne nous intéresse pas. Il y en a plein, elles sont multiples. Dans le sens, voilà. Donc nous, on est dans cette question du questionnement. Et enfin, c'est pas pour faire pompeux, c'est parce que c'est quelque chose de très concret pour nous. C'est pas parce qu'on passe des heures à se poser des questions, à discuter pendant des heures sans arriver à une réponse. C'est parce que c'est parce qu'en fait, on ouvre des chantiers, on va se mettre dans la chute. On va dire, alors, aujourd'hui, on va travailler sur la chute, on va chuter pendant des plombes, et on va travailler sur le corps qui tombe. Puis on va le mettre à toutes les sauces, et puis on va l'inverser. On va avoir les idées du corps qui tombe, on va avoir les idées de tel morceau de musique parce qu'il nous touche, on va avoir l'idée de telle scène avec tels oiseaux parce que j'ai rêvé de travailler avec ces oiseaux-là, ça c'est en place, on a imprégné nos oiseaux, ils sont prêts. On sait qu'on va travailler avec du foin, on sait que. Voilà, on a mis plein de choses comme ça. Mais ce qui fabrique à la fin le spectacle, c'est pas que. On avait eu l'idée de mélanger ces oiseaux-là avec ces hommes-là transformés en foin sur cette chorégraphie-là, avec cette musique et ce thème-là joué par l'actrice. C'est parce qu'à un moment donné, on est arrivé face à ça et on a joué à inverser les choses qui nous ont amenés à cette combinaison, disons-là, de mise en scène qui finalement résonne avec notre rêve initial instinctif du début mais qu'on a trouvé comme par un hasard qui n'en est pas un, qu'on a provoqué. Est-ce que vous voyez?
Ça a à voir, je crois, avec la cuisine aussi. C'est-à-dire, voilà. On doit se dire, on va faire une omelette, et puis on fait ce qu'on peut, quoi. Mm. Et puis finalement, on réussit plus ou moins. C'est-à-dire,
ou la tarte tatin qui est tombée.
Ou la tarte tatin qui tombe et qui, du coup, elle réussit parce qu'elle a un verre. Mais on est là-dedans, c'est-à-dire, on est dans faire, défaire, refaire, refaire, et essayer de saisir et de capter pourquoi c'est arrivé, en singeant quel paramètre va faire que les choses... vont réarriver ou pas réarriver. Et ça, c'est toute la construction du spectacle. Et il y a après un autre paramètre qui est fondamental pour nous dans la création, c'est-à-dire quand le spectacle rencontre le public. C'est-à-dire que lui, et acteur de nous, le spectacle, dans le spectacle vivant, ce n'est pas des créations qu'on fait et puis qu'après elles sont finies, c'est-à-dire une fois qu'on arrive à la première du spectacle,
ça commence.
Ça commence. C'est-à-dire qu'on pourra enfin commencer à voir comment les timings qu'on a travaillés tout seul font écho ou pas, comment le public prend des temps de silence, comment le public prend des temps de plein, comment le public. Et ça, ça nous donne énormément d'informations sur les choses qu'on croyait comme ça sentir. Et le public nous redescend et nous montre assez clairement en disant mais là, c'est trop long. Quoi. Ça fait 4 heures que tu parles de la création. Et ça va pas aller. Si tu changes pas un peu de ton ou si d'espace, ou si tu fais pas quelque chose qui va un peu réveiller tout le monde, ça va s'endormir. C'est-à-dire que on le sent en tant qu'interprète. On sent bien si le public rit, s'il rigole pas, s'il s'endort, tout ça, on le sent, et ça nous donne du coup des informations, et c'est pas pour dire que du coup on va faire vraiment ce que le public aimerait, c'est pas pour faire ça non plus, mais quand même de savoir comment il voyage, comment il navigue, nous ça nous donne des informations supplémentaires pour réaffirmer finalement ce qu'on voulait faire depuis le départ.
Oui.
Sur le micro. Oui.
Ouais.
Je te la passe.
Et il y a une autre dimension aussi qu'on peut peut-être essayer d'expliquer sur la part d'improvisation et d'écriture. C'est-à-dire que en fait, toute cette alchimie, donc c'est pour ça qu'on met des mois et des mois à fabriquer ces spectacles, parce qu'on est à l'envers, à l'endroit. Donc il y a vraiment des débuts. Il y a des fois, on fait des présentations de travaux au début où on peut être très inquiétant, genre oulala, mais c'est quoi, ils vont se planter ce coup-ci. Et puis bon, des fois, on est capable de trouver, de résoudre, de faire tenir un spectacle dans les derniers jours juste avant que ça joue. Et puis des fois, on le sublime surtout au bout de la 30e date, parce que là, on a vraiment compris. Parce que quand vous avez vu comment on fonctionne, des fois, on comprend vraiment ce qui est en jeu à la 30e représentation. Et des fois, à la 50e. Il s'avère qu'heureusement qu'on a mis en place un parcours, on a un parcours de compagnie qui nous permet de jouer 30 fois. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas jouer 30 fois et qui du coup ont de l'ordre entre les mains et qui n'ont pas l'occasion de trouver leur spectacle. Ça c'est encore un autre thème. Et ce que je voulais dire voilà, c'est qu'on on essaye d'allier quelque chose d'une alchimie assez particulière, mais qui est un rapport à la vie je pense aussi. C'est que d'un côté, pour prendre les risques du ce qu'on appelle le ici et maintenant, c'est-à-dire le risque de l'improvisation, de l'instant, être en la force du spectacle vivant, c'est que ce n'est pas un écran, c'est pas quelque chose qui se fait comme une machine, c'est juste ici, maintenant, moi et vous, là, maintenant, et lui, et on sait bien que c'est maintenant. Et pour magnifier cet instant-là, cette cérémonie-là, il faut savoir s'adapter ou laisser vivre quelque chose de l'ordre de l'improvisation d'instant. Mais donc nous, on allie d'un côté une mise en scène qui va être très ciselée, qui va être très travaillée, qui va être rythmiquement très pensée pour qu'on va dire qu'on ne vous perde pas et qu'on puisse vous emmener dans des endroits où par moment on va pouvoir rentrer dans un instant. Souvent les animaux portent ça très fort en eux, c'est pour ça qu'on les aime beaucoup comme partenaires de jeu. C'est-à-dire qu'ils ouvrent des espaces de jeu où on ne sait pas comment il va être aujourd'hui, comment Bonito aujourd'hui va jouer cette scène, peut-être qu'il va prendre beaucoup de temps, il va nous demander à trouver des solutions, des recours. Et ces recours-là, le fait que le public comprenne tout de suite que nous sommes en train de chercher des recours, parce que c'est maintenant que ça se passe, nous met dans une alerte, nous réveille tous. Et ça, c'est magnifier la représentation et c'est ce qu'on appelle de l'ordre de magnifier l'acte du spectacle vivant. Quoi. C'est ensemble maintenant. Et ça va dépendre donc de ce public, de son humeur, à chacun, cette alchimie qu'il va faire ensemble, de la nôtre. Mais pour essayer, à un moment donné, quand même, il faut qu'on fabrique des spectacles qui vont être assez solides pour la rencontre de différents publics, différentes soirées, des animaux plus ou moins fatigués. Donc c'est à nous, assez rapidement, sans attendre, sans représentation, à réussir à tisser une dramaturgie et un fil conducteur qui va être assez solide pour permettre à l'intérieur que des choses ne soient jamais les mêmes.
Ah non, je...
Tu fais...
Non, rien de concret.
D'accord. Si, c'est très concret.
Oui, enfin...
Peut-être, on a... Oui,
on a un peu la globalité. Peut-être on pourrait passer aux questions maintenant.
Y aurait-il des questions sur l'exposé? Oui, une question. Vous voulez le micro?
Parce que j'ai assez de voix. Oui, vous parlez de l'influence du public lors de la première représentation, les impressions, et ensuite, ça fait évoluer le spectacle.
Ouais.
Mais est-ce que vous avez l'interrogation du public lorsque vous développez vos premières idées? Est-ce que vous dites, par exemple, qu'il y a un public qui a réagi à ça dans un spectacle précédent, pourquoi on ne prendrait pas cette piste? Ou est-ce que c'est vraiment venu de peu partout?
Ça, justement, je pense que c'est quelque chose vraiment qui... Comment dire? C'est quelque chose presque qu'on s'interdit, je pense. C'est-à-dire que... Il n'est pas question de chercher des formules qui vont nous rassurer sur le fait que ça va plaire aux gens et que ça va marcher. Sinon, c'est quelque chose de complètement extérieur à soi. C'est quelque chose qui est complètement de l'ordre de... Quelque chose qui va nous rassurer. Et puis, s'il existait des formules pour faire un bon spectacle, en tout cas, elles ne nous intéressent pas. Et puis, c'est pas vrai qu'il en existe vraiment. Ou alors, on part d'un type de spectacle qui ne nous intéresse pas.
C'est très clair.
Ouais, c'est très clair. Hein.
C'est clair. Peut-être que justement, dans ça vaut le coup de ce qui.
Non, mais ce que je voulais juste compléter sur le fait. Je pense que vous m'entendez très bien si je parle comme ça, mais.
Il vaut mieux le micro quand même.
Bon, ok. C'est qu'on va quand même, par contre, par goût et par besoin, avoir toujours besoin que le spectacle, ça c'est notre côté circassien, c'est-à-dire qu'on en parle souvent avec les danseurs avec qui on travaille, les gens qui viennent de la danse contemporaine ont plus l'habitude d'être entier dans une proposition, et celui qui veut le prendra, celui qui passe à côté. Ils sont plus de cette culture-là, on va dire. Alors que nous, on vient quand même du cirque, il est quand même... On est quand même dans un besoin un peu viscéral de choper tout le monde. Ça, c'est clair. Ça se voit. Mais pas à tout prix, et en prenant les bons... En essayant d'aller prendre quand même de vrais risques. Voilà.
Moi, ça me renvoie, du coup, peut-être c'est pas la question, mais ça me renvoie en tout cas à la fragilité. C'est-à-dire que ce qu'on essaye, je crois, nous, de mettre en avant, c'est notre singularité. Donc le fait qu'on est nous, c'est pas de personne, donc nos spectacles sont de ça, et puis finalement on vient parler de la fragilité de l'être humain. De ce qui va nous intéresser aujourd'hui dans le cirque, c'est pas de voir, c'est pas de montrer, regarder comment c'est facile de faire des équilibres, comment on est fort, c'est-à-dire de pas de se placer en super-héros, sinon de laisser transparaître la petite vibration, le petit tremblement, la petite fragilité qui vont rendre, du coup, les interprètes ou les personnages uniques, touchants hein, ou émouvants. Et ça me fait penser à ça dans le sens où, non, on remet pas les fermes, par contre, on ne se change pas non plus. C'est-à-dire qu'on refait des choses parce que c'est des choses qui émanent de nous et qui réapparaissent, même si on veut, on dit comme ça, il y a souvent, dans les peintres, je crois qu'on dit qu'on peint toujours le même tableau, ou on fait toujours le même spectacle, c'est-à-dire on ne se refait pas complètement non plus. Nous, on essaye de trouver des langages différents, d'aller plus, on a fait de la musique plus comme ci, des chants plus rock, plus machin, mais en même temps, c'est toujours Camille qui chante, et on reconnaît bien que c'est elle, et il y a une notion de rythme, une notion d'instruments qui du coup on reconnaît quoi, donc on retombe quand même sur nous-mêmes.
Mais ça,
à chaque fois
c'est une question qu'on en parle beaucoup avec les jeunes acrobates ou les jeunes interprètes avec qui on travaille, parce que c'est vrai que au début d'un parcours d'artiste on a tendance à être persuadé qu'il faut inventer ailleurs pour grandir, il faut pratiquer autre chose. Alors nous, d'un côté oui, on réinvente à chaque projet, mais à un moment de notre parcours on a compris il fallait arrêter de se dire que c'est en allant plus loin au même endroit, en restant là où on est, ce qu'on est, mais en allant plus loin, en assumant, certes je chante, mais ma complexité à moi, ma cuisine à moi, si j'y reste et que je vais plus loin, là je vais trouver d'autres choses. Alors, et ça, on l'a compris, hein, on va dire, au troisième, quatrième spectacle, et là, ça a été un grand pas. Parce que là, on savait quoi répondre, à quel est votre propos. Parce que c'est celui-là, en fait.
De ce que vous avez dit, ou ce que j'ai entendu, me fait penser un peu à une recherche de mise à nu. Mm-hmm. C'est-à-dire une recherche de vérité de l'être et de la beauté de cette mise à nu. Et je voulais vous demander si vous avez eu connaissance du travail de Jean-Bernard Bonange et de l'artiste Sylvain Dain dans la recherche du clown en soi.
Du clown ?
Du clown en soi.
Ouais.
Ils sont installés du côté de Livre de Mons. Ils ont des ateliers de petite recherche. Ça m'y fait penser un peu, la recherche de cette vérité, de cette nudité, cette belle nudité de l'être.
C'est sûr que... Alors ça, c'est toujours délicat parce que souvent on utilise le mot de la technique du clown pour essayer de définir notre travail, sauf que sur des gens qui connaissent peu le clown, ça va faire un raccourci qui ne va pas aider les gens à comprendre ce qu'on fait. Parce qu'ils disent « Ah d'accord, c'est du clown », alors que c'est vrai que c'est du clown dans cette idée de mise à nu de l'être et de naïveté au monde, où on ne fait que poser des questions au tragique du clown, à la tragédie comique, voilà. Et donc ça, oui, certes, c'est quelque chose de très important. Ce que vous l'avez expliqué, hein, son père est clown. C'est un clown vraiment un auguste classique. Mais là, lui est clown aussi. Et il a fait avancer ce rapport au clown, donc quelque chose qui est sans doute moins un auguste classique. Mais en tous les cas, dans notre formation, la technique de clown est, je pense, ce qui donne un ton très particulier à notre spectacle que les danseurs contemporains, je pense, n'ont pas de cours de clown ou certains comédiens. Mais du coup, c'est vrai que ça a donné une couleur assez très claire à notre rapport à l'absurde aussi, sachant que le clown n'est pas forcément dans l'absurde, mais nous, en tout cas, on est très allé vers ça. L'influence de Keaton, l'influence de ce genre de clown, dans le corps, quoi, physique.
Vous avez dit que vous travailliez avec des animaux, je suppose que ce sont des chevaux, surtout des chevaux.
Il y a dans la dernière pièce, donc qui est Bestias, il y a deux chevaux, donc elle parlait tout à l'heure de Bonito, c'est un cheval, et Shingo, et après il y a Gus qui est un corbeau-pie qui est né
à Lavernose.
Lavernose, la case.
Ouais.
Et il y a quatre perruches calopsites.
Et alors, moi, j'ai du mal à comprendre votre... Vous improvisez, comment pouvez-vous improviser avec des animaux? Je ne vois pas,
vous voyez pas
le genre d'improvisation qu'on peut faire avec des animaux qui s'attendent quand même à quelque chose.
Bon, les animaux, ils s'attendent à rien. Eux, ils n'attendent...
Ils n'attendent rien.
Justement, ce qui nous intéressait, nous, dans le travail avec les animaux sur le plateau, c'est que nous, voilà, nous, on conscientise tout, on se dit, oh là là, il y a 80 personnes, il y a 100 personnes, comment je vais être, qu'est-ce que je vais faire, mais je reconnais mon cousin, oh là là. Tout ça. Les animaux, eux, pas du tout, ils sont connectés avec le soleil, avec les étoiles, avec le vent.
Avec l'énergie que crée 100 personnes.
Avec l'énergie qui crée 100 personnes, mais pas du tout dans quelque chose de... De cérébral.
En tout cas, pas dans une projection de séduction.
Mais les animaux sont habitués à faire quand même certaines choses dans un spectacle.
Bah, ça dépend ce qu'on les habitue à faire. C'est-à-dire que moi, je travaille avec les animaux, donc les oiseaux sont imprégnés, les chevaux sont travaillés, donc c'est un mélange. C'est un mélange où ils sont travaillés comme les interprètes du spectacle, c'est-à-dire que ce sont des athlètes qui pratiquent un cheval pour qu'il soit bien, pour qu'il ait mal. Soit enfant, soit un vrai athlète, on leur demande quand même un effort. Un cheval comme un animal qui travaille a besoin, comment dire, de se révéler aussi, aller toujours un petit peu plus loin aussi dans ses possibilités. C'est aussi permettre à un cheval, par exemple, de grandir dans sa tête et dans son corps. Donc ça induit un travail quotidien très artisanal, hein, comme celui d'un acrobate, comme celui d'un danseur. Ça, c'est lié à des méthodes équestres, voilà. Et après, il y a un travail, on va dire, de complicité, de fait que l'animal va être complètement à l'aise dans l'espace et va se sentir chez lui. pour pouvoir être dans une détente, on va sentir sa personnalité vraiment là, dans l'instant, on voit l'animal, mais c'est aussi induire dans les spectacles une partition pour lui qui va être complètement, qui va coller à sa personnalité. Le corbeau adore manipuler des trucs, adore piquer des objets, c'est son grand truc, adore être dans des actions avec son bec. Ben, il fait la séquence qu'il a magistrale dans Bestias, elle est liée à ça. Et après, il va la faire plus ou de manière différente, dans un timing différent, selon son humeur. Et nous, on gère ça, ce timing différent. Après, on a besoin quand même de rendez-vous, ils ont des rendez-vous, ils les connaissent. Et après, il y a des endroits où ils savent que ça, c'est un rendez-vous assez ouvert. Et nous, après, en tant que comédien, ben, il faut qu'on fasse en sorte qu'il peut rester ouvert jusqu'à ce qu'après, il y a une loi, c'est la loi du rythme, à un moment donné. Passer un certain temps, on sait que là, il faut qu'on aide l'animal à conclure. Parce que là, eux, ils ne sont pas dans une conscience du temps du spectacle, c'est clair. Quoique, Bonito, des fois... Mais c'est quand même des grands professionnels aussi, au bout d'un moment. Quoi.
On vit quand même des choses incroyables avec eux, parce qu'on a... On ne peut pas débriefer, c'est-à-dire quand tous les autres interprètes, après on a dit, ah, t'as vu aujourd'hui, j'ai commencé, j'étais un peu mou, mais par contre j'ai fini, j'ai carrément la pêche, moi j'ai senti l'inverse avec eux, on n'a pas ce débrief-là avec les animaux. Par contre, on a quand même les mêmes relations, c'est-à-dire que des fois, Bonito, c'est lui qui démarre le spectacle, il a une traversée à faire, il traverse la piste. Ça dépend le public qu'il y a.
Tout seul, on n'agit pas, il l'a fait tout seul.
Il n'y a personne, c'était ce noir, entre guillemets, il met avec un chemin, et lui, il fait traverser. Bah, des fois, il prend 20 secondes à traverser, des fois, il prend 3 minutes. C'est lui qui décide. Et ce qui est quand même incroyable, c'est que c'est complètement connecté avec l'attention du public. Là, on a joué... Donc à Cavaillon et Gap, puis à Cavaillon, il y a eu un moment, une journée, bon, comme par hasard, il y a une trentaine de professionnels, parce que c'était la biennale du cirque, donc il y a une trentaine de professionnels qui sont là ce jour-là. Comme par hasard aussi, il y a une classe de jeunes lycéens, eux ils sont 80, un peu comme ça, complètement excités de rentrer dans le chapiteau avec leur téléphone, avec leurs trucs et tout ça. Donc, le spectacle commence noir et au lieu d'avoir un silence, elle va ah ouais nous, forcément, on se dit oulala, aujourd'hui ça va être la catastrophe, il y a des pros, donc c'est le jour où pour nous se décide entre guillemets le travail du futur. Donc nous, voilà, les animaux, eux ils s'en foutent, mais nous on a quand même un petit peu de stress parce qu'on se dit bon, si ça se passe
c'est
bien,
cuit.
On va avoir du boulot, si ça se passe pas bien, ça se trouve, du coup, on va rater je sais pas combien de contrats. Et Bonito, ce jour-là, il a incroyablement, donc rentrer, fait un arrêt, regarder les enfants, il leur a dit s'il vous plaît on travaille ici, il les regarde de l'autre côté, puis il est parti, il les a fait taire tous.
Direct.
Incroyable. Et nous, là, on se dit bon, c'est aussi à cause des actes comme ça que du coup on commence à y croire sur le fait que d'autres relations sont possibles. C'est-à-dire, on devient un peu mystique, mais à force de que le mystique vienne à nous. Enfin,
on ne devient pas mystique du tout.
Non, mais c'est pas mystique. Non, mais
c'est du concret.
C'est du concret pour. Voilà. Non, mais on peut. Oui, mais en même temps, c'est-à-dire, on donne énormément d'importance, du coup, à la respiration, au fait d'aller avec le groupe faire des exercices, des respirations pour être ensemble, pour être connecté avec les animaux, de bout en blanc. Enfin, en tout cas, nous-mêmes, il y a 15 ans, on n'était pas du tout dans cette démarche-là. Aujourd'hui, on y arrive par le chemin qu'on a fait. Quoi.
Vous parliez tout à l'heure d'animal qui était imprégné.
Oui.
Alors, c'était aussi des athlètes,
qu'il
fallait les entraîner.
Ouais. C'est les oiseaux qui sont imprégnés. Après, ça c'est, on parle d'imprégnation sur. Clairement, la définition d'imprégnation, c'est un animal qui va presque se reconnaître l'humain comme partenaire sexuel quasiment. Hein. C'est-à-dire qu'il fait partie de la famille des humains.
Ça calme.
Non, parce qu'il a fallu que je passe devant des commissions scientifiques, machin, il a fallu que j'apprenne la définition quand même. Parce que le corbeau est un animal, est un corbeau sauvage, un classé animal sauvage. Donc heureusement, c'est bien fait. En France, il y a beaucoup de législation sur le sauvage, le domestique. Bon, bref. Imprégner un oiseau, c'est-à-dire qu'il va passer 15 jours avec ses parents, et puis à la troisième semaine, quatrième semaine, il va passer avec l'éleveur, et il va être nourri, imprégné, c'est comme si vous trouvez un oiseau qui est tombé du nid, et puis vous le prenez chez vous. Et puis du coup, il va grandir avec vous, vous allez être sa maman ou son papa, vous allez être sa famille. Et donc il va après avoir un lien affectif avec vous très très fort, c'est son repère, c'est sa famille, voilà, clairement. La définition scientifique, c'est ce que j'ai dit au début. Là, clairement, Gus, le corbeau, ben voilà, je suis sa maman. Dans quelques situations de stress, il va venir vers moi pour se rassurer. Par contre, si je lui amène une partenaire, tout ça, je pense que clairement, il va pouvoir faire sa vie de couple avec cette partenaire. Mais, corbeau, mais les oiseaux, pour faire travailler des oiseaux en spectacle, tous les oiseaux que vous voyez dans le cinéma, dans les spectacles, ce sont forcément des oiseaux imprégnés. Prendre un oiseau, on peut, par exemple un rapace, on peut créer une espèce de relation avec un peu de nourriture pour faire qu'on a rendez-vous un petit peu tous les jours, puis il va venir vous voir, tout ça, ça d'accord. Mais réussir à ce que des animaux puissent s'habituer à des situations de représentation, je sais pas, avec du fou, ce sont des oiseaux imprégnés. Donc après c'est une grande responsabilité, un corbeau ça peut vivre 50 ans, donc, et que si je le lâche demain, c'est vraiment un sale coup, parce que lui, il n'a pas du tout envie de se barrer. Lui, je peux le lâcher, il va pas partir. Donc après, c'est des choix. Alors là, on arrive sur un thème particulier et très actuel sur la question animale. Bien-être animal, a-t-on le droit de faire ça? Qu'est-ce que c'est la liberté? Est-ce que c'est bien de faire travailler des animaux? Enfin, bon, voilà, y a plein de thématiques. Sauf que nous, donc, on est quand même dans un lien affectif, dans le sens qu'on ne va pas collectionner les animaux pour faire une ménagerie. On n'est pas une compagnie qui va faire avoir des ménageries. On a des animaux qui ont une carrière vraiment d'artiste avec nous et que l'on va aider et épauler pour toujours être dans le bien-être. Dans le sens que comme les animaux sont en liberté sur scène, on a intérêt d'avoir des animaux qui vont bien dans leur tête. Et qui ne sont pas en stress. Déjà parce qu'ils tombent malades très vite, et puis ça se voit, on le voit très bien. Donc voilà, l'imprégnation, ça veut dire un choix, c'est pas rien, quoi. C'est...
Voilà. Et après, du coup, sur le fait de oui, donc il y a ces moments dans le spectacle où ils jouent, donc c'est vrai que le chapiteau est leur espace de jeu, l'espace. Il y a un moment, mais tout l'avant et tout l'après, il y a tout un travail, effectivement, pour qu'ils soient bien dans leur corps et bien dans leur tête, c'est-à-dire qu'ils soient physiquement...
C'est-à-dire que le spectacle, c'est la récréation.
Le spectacle est leur moment de liberté, c'est-à-dire où il y a des rythmes qui sont imposés, mais là, eux, ils chantent, ils ont le droit de faire plus comme ci ou plus comme ça... Mais c'est sûr que ce que ça demande pour qu'ils soient bien, pour qu'ils soient bien dans leur corps, enfin, tout le travail, c'est un travail assez besogneux, enfin, de tous les jours, c'est assez conséquent, quand même, tout le boulot qu'il y a derrière. Après, là où moi je trouve que ça vaut le coup quand même, là qu'on en est là, c'est-à-dire oui, on peut se poser la question de dire, mais bon, est-ce que c'est bien qu'un oiseau soit avec vous? Moi, je crois, nous, on croit que oui. C'est-à-dire que nous, le fait de pouvoir partager avec eux et apprendre avec eux, c'est-à-dire on est vachement nourris de leur relation au temps, de leur relation au spectacle sur scène, mais aussi à leur relation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'ai l'impression que les animaux, soit on les mange, soit on les observe. Là, nous, on partage des choses avec eux. Donc c'est vrai qu'il n'y a plus énormément d'endroits où il se passe ça, et que finalement, nous, on essaye de le respecter, on essaye qu'ils aillent bien dans leur corps et dans leur tête, et en même temps, d'avoir des relations avec eux pour essayer de se connecter à une relation que, voilà, qui ne passe pas par la parole, mais qui est vraiment là et qui est vraiment existante.
Et c'est aussi, c'est un rapport aussi avec explorer des territoires inconnus.
Nous, on aime beaucoup la philosophe comme Vinciane Després, qu'on entend beaucoup à la radio en ce moment, ou Elisabeth de Fontenay, c'est des gens qui se passionnent pour la question des animaux, et qui démontrent aussi à quel point, certes, l'éthologie est arrivée, donc l'étude du comportement animal, mais si vous voulez, selon le questionnement de la société, on pose certaines questions à des animaux, dans le sens où on a déjà idée de la réponse, dans le sens où... toujours dans cette idée de nous n'avons pas les réponses et nous ne faisons que poser des questions, rentrer des animaux dans ces endroits de recherche est aussi une manière d'ouvrir de nouveaux territoires et d'être dans quelque chose qui va réenchanter notre envie de l'autre, dans le sens où être capable d'intégrer complètement que l'être en face de moi perçoit la réalité comme moi, mais autrement, c'est un autre monde. Deleuze, il explique un animal, c'est un monde. Chacun a son monde, mais nous sommes dans le même. Sauf qu'il n'y a pas que le nôtre. Et ça, les animaux, donc cette dominance des humains, hein, finalement, sur leur perception du monde, le fait de remettre des animaux en scène et de les donner à voir dans une même valeur que nous, dans leur perception, dans ce qu'ils donnent de l'instant et de leur ressenti, est quelque chose qui nous semble être pouvoir faire bien plus de bien à la question animale, nous semble être une vraie démarche qui peut rendre service aux vivants, on va dire.
Y aurait-il une dernière question, parce qu'il faut quand même les libérer, hein. Ils sont sur scène depuis pratiquement une heure et demie. Y aurait-il une dernière question?
Est-ce que à chaque spectacle, chercher de nouveaux partenaires, des nouveaux danseurs, des nouveaux acrobates. Vous êtes le noyau du Barreau des Vêtes, mais...
Oui, il y a plein d'autres gens.
Vous êtes le noyau permanent et que vous changez à chaque fois de partenaire.
À chaque fois, non. C'est-à-dire... on a créé la compagnie en collectif à partir d'une époque où on dirige avec Camille. Donc nous, on est à la direction. Après, il y a toute une équipe administrative, tout ça qui est plus ou moins stable. Et sur les créations en elles-mêmes, ça dépend vraiment du projet. Il se trouve qu'avec Besties, il y a 8 interprètes sur scène, dont nous deux. Et que du coup, on a constitué une espèce de troupe qui a priori va jouer dans d'autres spectacles qu'on va refaire, mais il se peut qu'il y ait d'autres artistes qui arrivent et que certains repartent. C'est-à-dire qu'on essaye, il n'y a pas de règles, on n'a pas de... la constante est qu'on imagine et on se met dans cette direction de travail avec Camille, mais après... ça dépend de ce qu'on veut faire, quoi.
Après, il y a des gens qui sont dans la compagnie depuis des années. Hein. La créatrice du son, qui s'appelle Fanny Tolo, elle est là depuis presque 10 ans. Enfin, en lumière aussi, enfin, il y a des gens qui restent. Après, c'est des parcours de vie, c'est des boucles. Et on peut avoir des moments dans le milieu du spectacle, on vit des instants, des années très très riches avec des gens. Puis, au moment, voilà, on passe, puis après, on se retrouve 10 ans après. Enfin, je ne peux pas encore non plus parler de ça, je n'ai pas non plus tant d'expérience. Mais je le vois chez les autres, en tout cas. Après, une des choses importantes dans notre fonctionnement, c'est que quand même, on est toujours dans cette histoire polyvalence qu'on a essayé de vous expliquer. Et donc, quand même, il y a quelque chose de l'ordre d'un enjeu un peu de tous les jours, à réussir qu'un groupe en tournée, surtout avec le chapiteau, le cirque, il faut solutionner des problèmes tous les jours, et en s'appuyant sur un projet collectif et le fait que chacun n'est pas isolé dans sa partie. Et c'est parce qu'on est ensemble à trouver des solutions, en se déplaçant dans les pratiques, et aussi en grandissant ensemble, hein, Le secret aussi, c'est que chez les artistes, on fasse partie d'une troupe et qu'on ait envie d'apprendre de l'autre. Et c'est ça qui crée une vraie raison d'être ensemble. Et ça, essayer de relever ce défi que tous les jours, on règle les problèmes en même temps avec une intensité, quand même, des fois sur une journée de chapiteau, de cirque, on vit 3 jours en une seule, hein, il se passe plein de choses. Mais en même temps, en cherchant à ce que personne ne revendique, que personne n'a à se ressembler pour avoir un fonctionnement commun. Et donc ça fait partie, encore une fois, quel est votre propos? Ben, il est celui-là, c'est tout.
Mais je pense qu'on va pouvoir remercier Camille.
du rideau noir, là. Parce que bon, nous ont... on comprend bien, c'est passionnant ce qu'ils font.
On a mis du temps à se chauffer, quoi, mais au bout d'un moment, on a
réussi
à...
Non, le chauffeur, j'ai venu rapidement. Et c'est intéressant de voir le jeu entre vous deux, là, pour la mise en chauffe, là. Et si je peux faire un commentaire, finalement, ce que vous appelez intuition, c'est votre expérience de 15 ans qui vous donne des choses. Et voilà, c'est un petit peu comme ce qu'on appelle les experts. Les experts sont des gens qui ont une expérience et qui peuvent, grâce à cette expérience, s'adapter au moment.
Mais c'est comme les grands improvisateurs de jazz.
Oui, mais voilà.
C'est-à-dire qu'ils ont des métiers derrière. Ils passent des heures et des heures à maîtriser les choses pour essayer après de
sortir.
Mais c'est énormément de boulot.
Absolument. La prochaine fois, c'est bien le 22 juillet. Le 22 mars, alors on passe à l'autre volet. Ça va être François Morin qui va venir nous parler des conséquences possibles du Brexit.
Ce sera de l'improvisation.
Non, c'est de
l'improvisation. Absolument. Donc, ça se passe à Montesquieu à 20h à la Symphonie. Et maintenant, c'est l'auberge catalane qui vous attend.
Merci.
Merci à vous.
C'est pas un truc à vous, ce qu'il y a.
Non,
c'est
un enregistreur.
Ah, c'est un enregistreur, d'accord, très bien.
Attends, je te rapporte.
Bien, merci.
Avec plaisir.